Henri Martin, pour la troisième partie de ce Radio Barque 34, on va en peut-être encore dire un petit mot sur le département. Alors, vous avez expliqué, je crois, l'intérêt pour vous d'être présent, même si vous n'êtes pas majoritaire. Et puis, finalement, le département s'implique quand même beaucoup dans votre commune en finançant notamment le port de la Nouvelle, l'extension.
Oui, absolument. Le département, comme d'ailleurs le Grand Narbonne, intervient financièrement sur l'extension du port à hauteur de 30 millions chacun.
Voilà. Oui, ce qui n'est pas rien.
Voilà. Et ce, depuis le début des opérations, c'est une espèce d'entente globale sur le département qui était intervenue, à savoir que Grand Narbonne venait sur l'aéroport, venait sur le TGV, le département venait sur le TGV et le département venait sur l'aéroport également. Donc, si vous voulez, chacun avait montré, un peu par anticipation de ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs.
Oui, une bonne entente entre les agglos de Carcassonne et de Narbonne.
Exactement, voilà, qui avait été cédé, et le département. Voilà. Donc le département montre son intérêt aux côtés de la région. Et donc la question qu'on peut se poser aujourd'hui, enfin, je ne veux pas rentrer en polémique parce que nul n'aura la possibilité de répondre à ce que je dirais, mais simplement je m'interroge sur la pertinence des propos de certains écolos qui viennent manifester à grand bruit, à grande exhibition sur le port. Quel va être leur comportement lorsqu'ils seront élus conseillers départementaux, car certains seront élus. Est-ce qu'ils vont continuer à voter cette annuité, puisque donc le département est engagé encore jusqu'en... C'est sous forme d'annuité. Hein. Donc il y a un engagement jusqu'en 2030. Voilà, bon. Il est évident que si le département devait être relâché le versement de ses prébendes, la région devrait intervenir. Il est évident qu'un jour interviendra, puisque Mme Delga est très attachée à ce que ce projet aboutisse. Et d'ailleurs, je l'en remercie très officiellement, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire. Et je tiens à le dire, puisque quand Mme Delga a été élue, elle était venue rencontrer le terrain local et puis les décideurs. Et elle ne s'était pas engagée. Elle m'avait dit, nous allons faire un audit, puis on va voir un petit peu, et il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas, mais je tiens à faire un inventaire, un droit d'inventaire. Mmh. Et puis, quelques mois après, elle a affirmé sa volonté de vouloir investir sur le port. Donc aujourd'hui, c'est un maire reconnaissant à Mme Delga qui s'exprime devant vous. Voilà. Et donc, je ne manifeste pas d'inquiétude du côté du département, mais je dis que peut-être certaines positions seront difficiles à tenir, à la fois contre le port et à la fois en votant le budget qui abonde.
Donc pour vous, ça sera intéressant d'être présent à certaines discussions ou de les entendre.
Ne serait-ce que pour ça, il faut absolument que j'y sois.
Voilà. Mais vous avez raison de le souligner, ce port, c'est un port régional. Hein. On est bien... Le label est tout à fait mérité.
Absolument.
Et c'est clair à ce niveau-là. Voilà. Et le recours qui est déposé par certains, ben, ça sera géré...
Il y a plusieurs recours. Certains veulent arrêter la construction des digues. Bon,
il y en a qui veulent revenir en arrière. Même.
Oui, ça devient pathétique. Et puis d'autres qui s'attachent sous le fond maintenant à la société qui sera appelée à la CEMOP qui va gérer le port lui-même.
Ouais, là aussi, le consortium qui est mis en place.
Qui a été choisi par la région. Voilà, tout simplement parce que la région a fait appel à... Ce sera un partenariat public-privé qui semble tout à fait de nature à correspondre à ce qui est nécessaire maintenant. On voit mal comment un port comme ça peut être pris en régie. C'est un investissement qui est énorme. Il y a 300 ou 400 millions d'euros qui vont retomber en suivant. Il est évident que
la trésorerie de la région... Et il est appelé à augmenter considérablement son trafic.
Oui, absolument. Mmh. Et vers des trafics nouveaux. Et l'originalité de ce port, nous y étions tout à l'heure, c'est qu'il est adossé à une réserve naturelle régionale que nous avons demandé à l'époque. Donc il ne va pas se faire n'importe quoi sur ce port. Mmh. Ça va être un port exemplaire. Ça va être le port de la transition écologique.
Non, qui devrait normalement plaire aux écologistes. Or, à ce sujet, il n'y a pas si longtemps que ça, dans un conseil communautaire, Henri Martin, où les écologistes rappelaient qu'ils s'opposaient complètement à ce port, vous avez utilisé une image qui, me semble-t-il, a fait mouche particulièrement. Vous avez dit l'investissement, 300 millions, je crois, c'est le prix de 2 avions Rafale équipés. C'est une image, il me semble, qui a fait... C'est un peu comme une bombe, me semble-t-il.
Oui, et puis ils sont équipés de bombes. Non, mais c'est simplement que j'ai voulu comparer ces comparables. Les écologistes, certains sont spécialisés dans le côté naturaliste. On les écoute avec une certaine humilité. Ce sont des hommes et des femmes de science. Mais lorsqu'on parle économie, s'il vous plaît, il faudrait qu'ils se calment un petit peu. Et il ne faut pas qu'ils soient détenteurs d'une forme d'écologie qui soit anti-économie.
Oui, et punitif, comme on dit, c'est un peu ça, c'est l'écologie punitive, c'est embêter les gens.
Et voilà, il ne faudrait pas que ces écolos soient à l'économie ce que Monsanto est aux abeilles. Ils font exactement la même chose. Voilà. Et lorsqu'on compare, c'est comparable, le budget déployé pour des engins qui vont semer la mort quelque part, et que deux d'entre eux suffiraient à financer les aménagements du port de la Nouvelle, je crois que c'était une image qui était suffisamment parlante et que je me suis autorisé à publier, parce que je ne suis pas pro-militariste, mais quand je vois que les gabegies d'argent que l'on dépense dans l'armement, c'est quand même révoltant quand on voit que sur place, on peut fabriquer des outils économiques particulièrement performants.
Voilà, entre la guerre et la paix, je pense que là, le choix...
Nous avons choisi.
Clairement. Alors, Henri Martin, dans cette troisième partie, on aime bien parler un petit peu plus aussi de vous, de ce que vous faites et de ce que vous pensez. Alors, une question que beaucoup se posent, et avec des réponses totalement différentes, certains se disent, on arrive peut-être au bout du Covid, ou en tout cas, on en prend la direction, mais cette épidémie ou cette pandémie mondiale aura marqué l'humanité, et c'est tout juste si certains ne prévoient pas un homme nouveau à la sortie de cet épisode. Est-ce que c'est votre impression ?
Je n'irai pas jusque-là. Je croise les doigts quand on dit qu'on va sortir de cet épisode douloureux. L'été sera l'épreuve de vérité, mais je pense qu'on va arriver à vaincre cette pandémie comme on a vaincu des épidémies mondiales de par le passé, à partir de l'équilibrage qu'il y aura avec les vaccins.
L'immunité collective, ce qu'on appelle.
Voilà, et à défaut qu'il en ressorte un homme nouveau, je pense que les uns et les autres, nous aurons vécu une période particulièrement sordide à certains moments, où nous étions démunis de tout, démunis de pouvoir agir.
Oui, c'est notre faiblesse qui sera ressortie.
Oui, je crois. Et donc, nous en ressortirons grandis, mais c'est le monde de nouveau, c'est une autre histoire. Je crois que c'est une histoire que nous ne vivrons pas, ni vous ni moi, et qui se déroulera peut-être pas à l'occasion d'une pandémie, mais à l'occasion d'autres événements un petit peu plus violents et physiquement beaucoup plus graves.
Oui, mais il est à craindre que nous oublions très vite nos faiblesses telles que nous avons pu les toucher du doigt à un certain moment.
En tout cas, ce serait dommage parce que je trouve que nos concitoyens ont été particulièrement courageux, ont été particulièrement réalistes et constructifs dans leur attitude. Et il faut absolument que la patience qui a été la leur commence à payer maintenant. Mais aussi, je tiens à souligner l'esprit de solidarité qui a régné, même au niveau de l'État, quoi, je veux dire. Les entreprises ont été aidées.
L'État français a été omniprésent. Parmi les meilleurs du monde,
oui,
à ce niveau-là, sur ce point-là.
Et rendez-vous compte, aujourd'hui, tout est gratuit en France, dépistage, vaccin, etc. Il y a des pays, certains de nos voisins, où le vaccin est payant et où le dépistage est payant aussi. Donc je crois qu'on a quand même bien réagi de haut en bas. Alors c'est sûr, il y aura l'inventaire des bêtises, l'inventaire des non-dits, l'inventaire des fautes, mais je crois que c'est pas très courageux de tirer à boulet rouge sur tout un tas d'hommes et de femmes qui ont fait le maximum pour qu'on puisse en arriver maintenant à des perspectives beaucoup plus positives.
Henri Martin, on avait appris au cours, par exemple, de la précédente émission où on vous recevait, que vous êtes lecteur, vous avez toujours plusieurs lectures en train et vous aimez bien vous évader, si j'ai bien retenu. Quelles sont vos lectures actuelles? Quel est le ou les bouquins?
Le, parce que je ne l'ai pas lâché, c'est un bouquin de Christian Jacques, dont le héros bâtit la grande pyramide. C'est un gamin qui fait des bêtises dans son village natal, qui fait pas des bêtises. Il est réputé pour faire des bêtises. Il a cette image. Et qui lui colle à la peau. Et il se trouve que on retrouve un monsieur, un vieillard, décédé chez lui, qui a été, un appartement qui a fait ça. C'est pas son appartement, son logement a été pillé. Et tout le monde ne se met à penser que c'est ce gamin. Donc il est obligé de partir de son pays, de ficher le camp du sud de l'Égypte, et il remonte donc vers les chantiers de la Grande Pyramide, et là, il va commencer complètement en bas de l'échelon social des bâtisseurs pour tout doucement progresser, et puis je ne suis pas encore à la fin, mais je suis persuadé qu'il va, il va terminer en étant reconnu comme maître bâtisseur.
Et quel est l'auteur? Parce que ça demande une grande imagination.
Christian Jacques. Christian Jacques, qui est auteur de beaucoup d'ouvrages sur l'Égypte.
Voilà. Oui, parce que on peut très bien connaître l'Égypte et les pyramides, s'y intéresser à l'histoire, sans pour autant être capable d'inventer ce
et
genre
de
d'histoire.
Et de parler du quotidien, déjà, c'est extraordinaire.
Oui, ce qui vous intéresse, alors peut-être, c'est la façon dont on vivait à l'époque des pharaons.
Oui, absolument. Bien sûr. La façon dont vivait les pharaons, ça m'intéresse un peu moins, parce que ça a été dit et redit, mais la façon dont vivait le citoyen lambda. Pour qui la vie humaine ne représentait pas grand-chose, quoi. C'était une question de survie.
Oui.
Pour lui et ceux qui décidaient du tournage des pierres qu'on monterait le lendemain. Donc on raisonnait en quantité d'individus en numérotation.
Oui, qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, encore que le Moyen-Âge chez nous n'était pas beaucoup plus reluisant que ça en matière de vie humaine.
C'est vrai.
Et vous nous disiez également, Henri Martin, que vous êtes un amateur, alors pas seulement de musique, mais de son. Je crois me souvenir que vous disiez même le bruit des moteurs en Formule 1 vous berce. J'exagère un peu.
Ça berce pas tout à fait, mais je veux dire, il y a un frisson qui est ressenti dans le bruit mécanique.
Oui.
J'aime beaucoup. C'est...
Voilà. Mais lorsque vous passez sur des sons combinés de façon plus harmonieuse comme la musique, est-ce que vous avez des préférences? Est-ce que vous aimez le classique, par exemple, et certains compositeurs particulièrement?
Tout dépend du moment. En fait, la musique, j'ai beaucoup plus le temps de l'écouter dans ma voiture qu'à mon domicile. Et dans la voiture, tout dépend également de l'état d'esprit. Où est-ce que je vais? D'où est-ce que je viens? Et quelle est l'excitation qui est la mienne? Voilà. Dans ma voiture, vous y rencontrerez Pavarotti, vous y rencontrerez les Beatles et vous y rencontrerez les sœurs Bertollet, qui donc sont des violonistes, des violoncellistes qui créent un climat souvent apaisant. Voilà. Donc tout dépend du moment dans lequel je me trouve. Si j'ai envie d'un petit peu de nostalgie, c'est Beatles. Je suis un fanatique des Beatles depuis la première heure. J'ai la prétention de connaître leur répertoire pratiquement par
cœur. Et ça vous rappelle votre
Paroles
jeunesse,
comprises,
forcément.
Voilà. Et j'adore l'anglais. Et puis bon, Pavarotti, c'est la puissance. On a envie de s'envoler. Quand on va quelque part qu'on n'a pas trop de punch, on écoute Pavarotti. L'accélérateur de la voiture prend de temps à autre, donne des tours au moteur et fait monter un petit peu la vitesse dangereusement. Voilà, un coup de Pavarotti, puis tout le monde s'emballe, y compris le véhicule. Mais c'est profond.
Merci pour la révélation de ce goût particulièrement éclectique en matière de musique, Henri Martin. Parmi les prochains invités, même s'il y a encore quelques incertitudes sur les dates, alors citons André-Luc Montagnier, le maire de Fleury, Kun Tao, qui est une œnologue d'origine chinoise installée à Lézignan-Corbière, qui a un parcours, me semble-t-il, particulièrement intéressant et original. Je pense aussi recevoir prochainement Didier Mouly, peut-être qu'on clôturera l'année avec lui d'ailleurs, le maire actuel de Narbonne et président du Grand Narbonne. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis, merci Henri Martin, et à la semaine prochaine.
Merci Monsieur Jules.